Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de la radio des Nations Unies. Au menu, coup de projecteur sur l'assistance au Népal, l'ONU préoccupée par la protection des témoins suite aux allégations d'abus sexuels par des soldats de la Sangaris en République centrafricaine, l'Organisation mondiale du tourisme vient en appui au Kenya, nous marquerons la journée mondiale de la liberté de la presse, en dossier l'UNICEF s'inquiète sur le sort des enfants au Burundi, enfin nous reviendrons sur le forum des peuples autochtones avec le plaidoyer du plus jeune grand chef Atika. En déplacement au Népal, Valérie Amos, la secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires, appelle la communauté internationale à continuer de venir en aide aux personnes touchées par le séisme meurtrier qui a frappé le pays samedi dernier. Selon la presse, le bilan provisoire aurait dépassé les 6 000 morts. Nombre des millions de personnes qui ont besoin de secours d'urgence se trouvent dans des régions difficiles d'accès. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 3 millions de personnes ont été déplacées et vivent à présent dans des camps de fortune. L'OMS se mobilise pour prévenir l'apparition de maladies diarrhéiques. De son côté, le programme alimentaire mondial accroît la portée de ses livraisons de vivres en dehors de la ville de Katmandou. Les explications d'Elisabeth Beers, porte-parole du PAM.
Hier, un avion transportant 50 tonnes de biscuits à haute teneur énergétique est arrivé sur place. Il y a d'autres avions en préparation avec du matériel humanitaire à l'entrepôt de Dubaï. Nous avons pu, depuis mercredi, faire des distributions par hélicoptère dans le district le plus touché de Gorka et de Dading et nous avons pu ainsi distribuer du riz par hélicoptère à 1700 personnes. Nous avons actuellement 6 districts les plus reculés que nous comptons toucher avec une aide alimentaire dans les prochains jours par hélicoptère bien sûr. Nous sommes toujours avec le problème logistique de certaines routes qui sont impraticables. Il va y avoir également le problème du carburant étant donné qu'il y a déjà des queues aux stations d'essence. Donc il faudra faire venir très certainement du carburant depuis l'Inde.
Le personnel de l'ONU a fait exactement ce qu'il devait en lançant une enquête sur les allégations totalement odieuses d'abus sexuels contre des enfants par des troupes françaises basées en République centrafricaine. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi le porte-parole du bureau du Haut-Commissaire des droits de l'homme à Genève lors d'un point de presse. Il a affirmé que le Haut-Commissaire coopère avec l'enquête française et mène sa propre enquête interne sur la façon dont l'information a été divulguée aux médias qui pourrait avoir compromis la sécurité des témoins, des victimes et des enquêteurs. Du côté des équipes onusiennes chargées de l'enfance, l'urgence et la protection des victimes. Alpha Diallo.
À ce stade, l'enjeu fondamental pour le Haut Commissariat aux droits de l'homme sur ces allégations d'atteintes sexuelles sur des enfants par des militaires français en Centrafrique est la protection des victimes. Selon le porte-parole Rupert Colville, les victimes et les témoins sont très vulnérables à des représailles. Les services du Haut Commissaire Zaïd sont donc préoccupés par le fait que des copies ont été transmises récemment avec les noms des enfants. Il a dénoncé le fait qu'au moins une victime a été contactée à plusieurs reprises par des médias. Dans ces conditions, l'UNICEF renforce son dispositif de protection en RCA. Christophe Bolerac, porte-parole de l'UNICEF.
À partir du moment effectivement où on nous a demandé de participer à ces entretiens, nous avons augmenté notre suivi des violations contre les enfants et nous avons notamment augmenté nos activités à travers nos partenaires, hein, toujours dans les camps de déplacés. Juste pour vous donner une idée, en 2014, en République centrafricaine, on nous a reporté 2000 cas de gender-based violence, ce qui inclut de la violence sexuelle.
Selon l'UNICEF, ces enfants interrogés à Bangui par les équipes de l'ONU en mai dernier ont bénéficié immédiatement et régulièrement d'un soutien psychosocial et médical. Au cours de ce point de presse, le porte-parole de l'ONU à Genève, Ahmed Fawzi, a rappelé que les Nations Unies adoptent une politique de tolérance zéro à l'égard des auteurs de violences sexuelles. Alpha Diallo, Genève, pour la radio des Nations Unies.
Au Kenya, les récentes attaques terroristes risquerait d'avoir un impact sur le secteur du tourisme du pays, l'un des secteurs les plus importants pour le pays. Face à cette réalité, l'Organisation mondiale du tourisme a affirmé qu'elle avait entièrement confiance dans le secteur ainsi que dans sa capacité à se redresser. Le secrétaire général de l'organisation, Taleb Rifai, s'est rendu dans le pays pour manifester sa confiance et signer un accord avec le gouvernement en matière de gestion de crise. Sandra Carvao, porte-parole de l'OMT, explique la démarche de l'organisation.
Le tourisme, c'est un des secteurs prioritaires au Kenya, non seulement d'une partie économique, mais aussi dans l'impact qu'il a dans la génération d'emplois et dans ce moment où le pays se trouve dans une situation compliquée au sens des défis qui doivent les menaces terroristes. On a voulu d'abord travailler avec le secteur public et privé pour les aider dans la récupération du secteur touristique et aussi pour pour passer un message très clair au monde que la situation que le Kenya est en train de vivre, c'est d'abord un défi qui est commun à tout le monde et qu'il faut qu'il aille fort soutien de la communauté internationale vers le Kenya et vers des secteurs qui sont prioritaires pour l'économie du Kenya.
Dimanche marque la 25e journée de la liberté de la presse, slogan pour 2015, donnons du souffle au journalisme vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité du genre et la sécurité des médias à l'ère numérique. Selon l'UNESCO, la situation est peu reluisante en matière de liberté de la presse. Le Comité pour la protection des journalistes indique qu'en 2014, 61 journalistes ont perdu la vie et 221 se sont retrouvés derrière les barreaux. George Papagiannis de l'UNESCO fait un bilan plutôt pessimiste.
If the world's press freedom showed up at the emergency room, the examination would reveal...
Si la liberté de la presse se rendait aux urgences, le diagnostic révélerait un grand nombre d'inquiétudes avec les intimidations, les menaces, le meurtre de journalistes. Des lois répressives et des réglementations contraignantes, un espace pour le dialogue public de plus en plus réduit, la concentration d'appropriation des maisons de presse, le rôle des pouvoirs parallèles qui n'est pas vérifié et l'émergence de structures non étatiques, l'aspect chaotique de l'Internet et aussi l'impunité qui continue de permettre à des esprits mal intentionnés de supprimer le messager sans risque de poursuite.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité avec le Burundi et les manifestations cette semaine suite à l'annonce officielle de la candidature de l'actuel président aux prochaines élections. L'UNICEF redoute le sort réservé aux enfants lors de ces manifestations. Selon le fonds, les enfants risquent d'être les premiers affectés par les confrontations en cours à Bujumbura et aux alentours. Un enfant a déjà été tué et des violations des droits de l'enfant inquiétantes ont été rapportées. Christophe Bolérac, porte-parole de l'UNICEF, est au micro d'Alpha Diallo.
Il y a de nombreux incidents d'enfants qui ont été rapportés, notamment au cours des confrontations à Bujumbura et aux alentours. Dimanche dernier, un enfant a été tué lors de confrontations dans des circonstances non identifiées. Mardi, un enfant d'environ 10 ans a été tabassé par des jeunes au sud de Bujumbura et hospitalisé. Et puis nous avons aussi reçu des rapports d'incidents d'enfants arrêtés, détenus, alors qu'ils se trouvaient dans des manifestations. Globalement, l'UNICEF s'inquiète de l'évolution de la situation au Burundi.
Et cet enfant qui a été tué, c'était lors de manifestations? Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement.
Les circonstances ne sont pas identifiées, mais c'est plus un mouvement global qui nous inquiète. La détérioration à la fois de la situation sécuritaire, le mouvement des populations vers les pays limitrophes, notamment le Rwanda. Dans cette population, il y aurait jusqu'à 60% d'enfants. Nous sommes inquiets de la façon dont la situation évolue, parce que nous savons par expérience que les enfants sont souvent les premiers affectés par le conflit, et que souvent un conflit, une détérioration de cette situation sécuritaire les affecte de manière disproportionnée.
Et quand on évoque des informations inquiétantes sur les violations contre les enfants, de quoi s'agit-il de façon générale?
Nous avons déjà un mort et des enfants blessés, mais il y a également des allégations selon lesquelles des écoles ont été fermées. Et vous savez que, voilà, on peut très bien citer la Convention relative aux droits de l'enfant, qui rappelle que les enfants ont droit à l'éducation. Nous sommes en train de vérifier le nombre d'écoles dans les communes de Bujumbura qui ont dû fermer suite à l'insécurité. Nous faisons aussi des visites de vérification, pour vous dire à quel point nous avons des craintes, des vérifications dans les prisons de Bujumbura pour vérifier qu'il n'y ait pas d'enfants qui soient détenus en contravention avec les droits dont ils doivent bénéficier. Nous travaillons aussi avec nos partenaires pour fournir une assistance aux enfants des rues qui apparemment sont de plus en plus nombreux et qui demandent, sont en demande d'une assistance en termes d'abri et d'alimentation. Donc la situation clairement se détériore. Et puis nous coordonnons avec nos partenaires pour poursuivre les mouvements d'enfants et de mouvements des familles burundaises à travers les frontières, notamment vers le Rwanda. 60% apparemment des réfugiés burundais, donc à l'étranger, sont des enfants. Notre action, elle concerne la réponse au niveau de l'eau et de l'assainissement. Toujours la même chose, lorsque les enfants sont en déplacement, ils n'ont pas accès à de l'eau propre, de l'eau saine. Ils tombent malades du fait des diarrhées. Nous voulons éviter ça. Et puis l'éducation, la protection de l'enfant, la santé, la nutrition. Mais il faut des ressources supplémentaires pour que notre réponse soit suffisante, soit à l'échelle des problèmes qui sont en train de s'aggraver.
L'UNICEF donne souvent des recommandations aux États, surtout par rapport à la participation des enfants lors de manifestations politiques.
Nous rappelons l'obligation que les États ont. C'est le cas du Burundi. Les lois burundaises sont en accord avec les lois internationales. internationale en matière de protection de l'enfance, de façon globale. Donc nous rappelons que les enfants doivent être tenus loin de tout mouvement politique ou d'action qui les expose, qui met leur intégrité physique, leur santé et leur vie, parfois, en jeu. Aucun enfant doit être exposé à la violence, ni séparé de sa famille. La place d'un enfant, elle est avec sa famille, en sécurité, et pas dans des situations où il y a un risque de violence. Quand il y a des situations potentiellement violentes, il ne doit pas y avoir d'enfant. C'est la responsabilité première du gouvernement burundais, des forces de sécurité. Et nous le rappelons, oui, mais nous travaillons évidemment en soutien au gouvernement burundais, comme tous les gouvernements des pays où nous sommes implantés.
La 14e session du Forum des peuples autochtones conclut ses travaux ce vendredi au siège de l'ONU à New York. Cette réunion annuelle est l'occasion pour des centaines d'autochtones de partager et faire avancer les questions qui les tiennent le plus à cœur, à l'instar de Constant Awashish, grand chef Atikamekw, qui est venu du Québec plaider pour sa nation. Une nation algonquine qui, en septembre dernier, a déclaré son autonomie devant l'Assemblée nationale à Québec et affirme sa volonté de vouloir participer au développement et à la gestion de son territoire.
Les Atikamekw, c'est un groupe autochtone de la grande famille des tribus algonquines. On occupe le centre du Québec. On revendique un territoire de 79 620,28 km². C'est ça, nous, on est venus ici en continuité avec nos démarches sur notre affirmation de nos droits sur notre territoire. Nous avons fait une déclaration de souveraineté en septembre de l'année passée devant l'Assemblée nationale à Québec pour affirmer et dire à tout le monde qu'on n'a pas disparu, on est toujours là, puis la question autochtone avec les Atikamekw n'est pas réglée. Parce que nous n'avons pas vendu, nous n'avons pas échangé ou statué autrement sur notre territoire. Nous n'avons pas non plus été conquis d'après le droit international. Donc, légalement, c'est encore notre territoire.
Justement, d'après la loi canadienne, donc, votre territoire devrait être reconnu comme autonome puisqu'il n'a jamais été défini en tant qu'autre chose?
Oui, c'est ça. Nous, ce qu'on réclame, c'est l'autonomie. On veut une certaine co-gestion du territoire. On ne demande pas l'indépendance. On veut participer, nous aussi. On veut faire partie de la société. On veut bénéficier des ressources. On veut pouvoir se donner la chance de se donner une meilleure éducation, un meilleur système de santé, travailler, donner de l'emploi à nos gens. Présentement, on est marginalisé ce côté-là. Pourtant, il y a tellement de ressources sur notre territoire. Il y a beaucoup d'argent qui sort de notre territoire, mais nous, on ne reçoit rien là-dessus. Puis c'est pour cette raison-là qu'on a fait une déclaration de souveraineté. Mais d'ailleurs, cette déclaration de souveraineté-là avait mijoté, ça fait plusieurs années.
Vous êtes allé devant l'Assemblée, ils ont accepté, ils ont réagi?
Oui, il y a eu beaucoup de réactions du gouvernement. Ils ont essayé de minimiser l'impact de notre déclaration. Mais nous, ce qu'on croit, c'est à nous, le territoire. Tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas réglé la question avec nous. En réalité, c'est une façon aussi de leur dire, venez vous asseoir sérieusement avec nous. On est en négociation, ça fait 36 ans aujourd'hui.
Vous êtes en négociation avec qui? Avec le gouvernement?
Avec le gouvernement provincial, fédéral. Et c'est ce que j'ai dit souvent aussi, c'est pourquoi pas venir s'asseoir sérieusement, de bonne foi, avec nous, maintenant.
Quelle a été la réaction depuis septembre 2014? Est-ce que vous avez eu l'opportunité de vous asseoir à table avec et les autorités provinciales et les fédérales?
Jusqu'à aujourd'hui, tout semble se dérouler de façon sérieuse.
Alors, donc, si les négociations se passaient dans votre sens, que souhaiteriez-vous voir comme résultat?
J'aimerais voir de la co-gouvernance, participer aux décisions. Nous, c'est important, la façon de gérer notre territoire. La forêt est importante pour nous, pour notre mode de vie. La gestion de la faune est importante pour nous, pour notre mode de vie. Il faut protéger certaines zones pour protéger la faune, protéger notre culture, nos pratiques. Il y a certaines zones aussi qui sont des sites sacrés pour nous, les Atikamekw. Il faut les protéger. Et aussi, toutes ces richesses, étant donné que à nos yeux, c'est à nous, on doit bénéficier directement de ces richesses-là. Et pour pouvoir se donner chemin, comme j'ai énuméré tantôt, l'éducation, meilleure éducation, santé. Parce que nous, malgré qu'on soit au Canada, un pays hautement développé, où ce qui fait bon vivre, nous, les Atikamekw et partout au Canada, les Autochtones en général, on est en arrière de tout le monde. Tout est lié à cette chose-là. On est asservi, on est gardé dans une position de faiblesse. Pourtant, on pourrait participer à l'épanouissement d'un Canada, d'un Québec. Et nous, on va falloir s'organiser à l'interne aussi, de trouver une structure idéale qui va nous permettre de participer avec le gouvernement à la co-gestion, co-gouvernance du territoire. On a notre mot à dire, c'est ce qu'on veut à la base.
Et c'est avec Constant Awashish que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.